C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on va parler de la culture même et pour m'accompagner, je suis avec Monsieur Camille Poignant. Salut Camille.
Salut Thibaut, salut à tous. Sacré dossier la culture même, hein. C'est ouais, gros pilier du web 2.0.
Et ouais, ils sont partout, hein. Ils envahissent nos écrans depuis presque bien le début du web, hein, dans un monde digital qui vise la sophistication, la recherche d'excellence, la belle chose, ils s'imposent avec leurs pixels bien dégueulasses, leurs vilaines mises en forme, eux,
leur
ce sont...
Leur faute d'orthographe.
Et leur faute d'orthographe, bien souvent. Et eux, ce sont les mêmes, hein, les mêmes. C'est impressionnant, les mêmes. On avait vraiment envie de décortiquer ça avec vous ce matin, de savoir d'où venaient les mêmes, hein, faire un petit peu de, comment on pourrait dire, de spéléologie au fin fond de la grotte du web pour savoir ce qui se passe et d'où viennent ces mêmes. Et puis évoquer ensemble la réussite fulgurante de ces petits éléments de viralité, hein. Allez, qu'est-ce que c'est un mème, Camille, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un mème?
Là, comme tu le dis, on est parti dans la mémologie du web. Je vais vous donner les origines du mème. Les origines du mème, il a été proposé la première fois, le nom mème, par Richard Dawkins en 1976. C'est la contraction, ou plutôt la déformation du terme mimesis, qui veut dire imitation en grec, et par analogie avec le mot gène, génétique, et aussi le mot mème du français. Donc c'est le mot mimesis, le mot gène et le mot mème.
Ouais, c'est alors attends, tu dis Richard Dawkins comme si c'était n'importe qui. Richard Dawkins, c'est donc un biologiste, éthologiste britannique, membre de la Royal Society. Donc quand même, le mème a des origines nobles, hein, on peut dire.
Donc
presque.
Cet homme-là a sorti le mème avant même que le web soit en essor. Donc il a inventé ce mot et ensuite il est vraiment intégré dans la culture mème, puis il a glissé vers le Larousse. Et dans le Larousse, on dit que c'est un concept, texte, image ou vidéo, massivement repris, décliné et détourné sur Internet de manière souvent parodique qui se répand très vite, créant ainsi le buzz.
Ouais, c'est intéressant. Juste sur l'origine du mot mème, hein, ce que disait Richard Dawkins donc quand il a créé le terme en 1976, dans son bouquin, il dit, en gros, il compare mème et gène. Et en gros, les gènes, c'est ce qui est issu de la biologie. Et puis le mème, c'est ce qui est appliqué aux éléments de culture. Donc en gros, c'est ce que tu te transmets culturellement, alors que les gènes, c'est ce que tu te transmets biologiquement. Là, c'est intéressant étymologiquement.
Donc le mème, c'est ça. C'est
en fait, c'est assez intello, le mème. Hein, on dirait pas comme ça. Mais
ses racines sont très intello. Hein. Ouais. Mais ça nous ramène vraiment à ses origines. C'est la culture geek sur le web. Et la culture geek sur le web, c'est très, très intello. C'est basé sur des fondements très précis que connaissent vraiment beaucoup les geeks comme Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, plus le Seigneur des Anneaux d'ailleurs, tout ce qui est Pac-Man, jeux vidéo à l'ancienne, et tout ça c'est une culture et ces gens-là les connaissent vraiment en détail, pas juste le jeu et ses niveaux, ils connaissent aussi les créateurs, les années de sortie, et c'est là où on voit qu'il y a une vraie intelligence dans cette partie-là du web à l'époque.
Alors quand on plonge dans la culture même et qu'on essaye de commencer à l'analyser, on plonge en pleine sociologie, hein, clairement. Le même, on pourrait dire que c'est l'émanation d'une communauté avec un langage commun. En gros, le principe du même, c'est que tout repose sur une connivence entre les membres d'un groupe, hein, d'une communauté qui partagent un langage commun et les mêmes références culturelles. Tu en as cité certaines. Hein. Cette connivence, elle repose sur des références, des moments que la communauté, elle a vécu et partagé ensemble. Alors évidemment, il y a des films, tu l'as dit, Harry Potter, Seigneur des Anneaux, etc. Avengers aussi, qu'on voit pas mal.
De l'actualité.
De l'actualité, c'est des moments collectifs, hein, d'un groupe. Des jeux vidéo, Super Mario, etc. C'est des choses qu'on voit beaucoup, Call of Duty. Des émissions télé, etc. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que c'est un groupe, hein, c'est un langage commun le même. Et c'est ça qui fait aussi sa force, c'est ce langage commun. C'est aussi, on peut dire, un désir de reconnaissance mutuelle dans le groupe. Pour qui diffuse du même, pour qui crée du même, il y a ce besoin d'appartenance à un groupe. Et là-dessus, il y a des exemples assez intéressants. On va en citer quelques-uns, des mèmes ultra connus. Mais moi, je voulais parler de Success Kid. Tu le vois, ça?
Alors, moi, je voulais te parler du premier mème d'abord.
Ah, bah parle-moi du premier mème, tiens.
Est-ce que tu as vu ce qu'était le premier mème?
Non.
Et du coup, je vais vous faire découvrir le premier mème. Et ça m'amène aussi, et ça m'a amené d'ailleurs à découvrir, du haut de mon inculture web, bizarrement, que le mème n'était pas forcément juste ce carré d'image avec un texte mal orthographié en dessous. Le mème, comme comme le dit Larousse, hein, c'est un contenu viral qui se répand très vite. Et le premier mème en est la preuve. En 1996, le soi-disant premier mème d'Internet, c'était un bébé dansant sur YouTube, sur fond noir, un peu dégueulasse, tout pixelisé.
Ah, je me le souviens. Un gif animé avec un bébé en couche qui faisait un peu du hip-hop.
Je vous mettrai le lien. Et en fait, même tu vois, dans l'article du Monde qui reprend les 30 ans d'innovation du web, c'est ce bébé qui fait le buzz, qui est reconnu comme le premier mème. Alors, c'est moche. Et en fait, ça a été très viral à l'époque, sûrement aussi parce que c'était un des premiers contenus un peu marrants comme ça qu'on trouvait sur le web, comme tous ces funny cats d'ailleurs qui arrivent aussi dans la liste des mèmes.
Ouais, et aujourd'hui, petit à petit, le mème a quand même pris un code graphique commun. Il y a vraiment un code graphique autour du mème. Pour le décrypter, il est assez simple. C'est toujours une image avec une grosse typo dessus. Et surtout, c'est toujours la même police. Et ça, c'est assez marrant. C'est toujours, elle est blanche, en majuscule bien souvent, avec un petit contour noir autour pour qu'elle soit vraiment lisible. C'est objectivement pas ultra joli, mais c'est pas l'objet. Et juste pour revenir sur la police en question, c'est une police qui est très connue des graphistes. Hein. C'est une police qui s'appelle Impact. Et Impact, c'est une police qui a été créée en 65 par un monsieur qui s'appelle Geoff Lee. Et pourquoi cette police, elle a vraiment explosé? Pourquoi c'est la police du mème? Pour une raison très très simple, c'est qu'en gros, elle a été intégrée par défaut dans Windows 98 et que, en gros, c'était la seule police un peu cool de Windows 98 par défaut. T'avais du comic, t'avais du Arial, etc. Mais t'avais au milieu ces Impact qui faisaient que ça pouvait cartonner. Donc,
aujourd'hui. 2019 d'ailleurs, très année 2017.
Ah ouais, totalement, finalement elle a pas vieilli.
C'est
alors,
du bold assez bien fait.
Ouais, aujourd'hui on voit un peu des tentatives de même parfois avec d'autres polices, mais ça marche pas. Pourquoi? Parce que cette police elle est presque devenue un mème en lui-même en fait. Hein. C'est qu'aujourd'hui quand un mème, il a un code graphique et ce code, il est simple, c'est image granuleuse pas très jolie, surtout vue et revue 1000 fois, et puis cette typo avec aucune mise en forme spécifique, juste le message très bold, et c'est ça un mème. Graphiquement, c'est déjà un mème avant même que tu l'aies lu, tu le sais, et c'est ce qui est attendu aussi par la communauté.
Une reconnaissance visuelle, même sur la première partie du mème. J'ai vu que donc dans les années 2000, le mème s'est vraiment développé avec la culture web 2.0, notamment sur plusieurs forums. C'est le cas de 4chan. Et là où on a vu des tonnes de lolcats, ces petits chats tout mignons accompagnés de textes écrits mal, parce qu'attention, souvent ça doit être écrit mal hein, même pour être encore plus drôle, même si on comprend le texte.
Une faute d'orthographe ou une faute de prononciation. Ouais,
et c'est souvent des raccourcis for you, tu vois, un 4, un U, voilà, plein de choses comme ça. Et un truc très drôle, c'est que donc c'est né dans l'ambiance et dans la racine des forums. Et il y avait aussi beaucoup le pédobir. Alors ça, c'est un peu moins drôle, mais le pédobir, c'est un ours pédophile en fait. Voilà, tout
ça,
simplement.
Ça me dit rien. Alors là, tes sources sont étranges.
Ça vient d'un article très bien noté. Le pédobir, il a été inventé en mème pour se moquer sur les forums des gens à tendance pédophile ou qui glissaient des trucs un peu dégueulasses. Et il y a beaucoup, donc c'est un ours brun tout normal, hein, on le voit maintenant dans les concours de cosplay, etc. Quand on ne sait pas, on ne sait pas quoi, c'est juste un ours. Mais en creusant, voilà. Ce mème a été beaucoup repris, j'en ai encore retrouvé récemment. Voilà, donc c'est né sur les forums et en fait c'était vraiment adapté à tout type de conversation sur les forums, de la moquerie, de la dénonciation et puis simplement
du
humour.
Tu vois, c'est intéressant ce que tu dis sur ce pédobert que je connaissais pas, mais c'est une culture intrinsèquement le même et c'est effectivement une culture web, très web, et c'est toujours à double tranchant, c'est-à-dire que soit tu possèdes les codes de cette culture et tu comprends et tu sais où se situe ton niveau de second degré, soit tu les possèdes pas, et c'est ce qu'avait eu comme problème Zara. Je sais pas si tu te souviens de ce bad buzz qu'ils avaient fait, parce que sur un de leurs t-shirts, ils avaient repris une grenouille, un visuel d'une grenouille, et ce visuel en question, c'était un visuel qui était utilisé dans tous les mèmes à tendance white power américain, extrême droite américaine, etc.
Sympa.
Et eux, ils se sont juste dit, la grenouille, elle est cool, je vais la mettre. Les mèmes en question, ils ont l'air rigolos, je vais utiliser ce symbole-là. Sauf qu'ils ne savaient pas que derrière, c'était plein de second degré et que ça s'était approprié à une communauté, parce qu'en fait, à chaque communauté, c'est même en fait, hein, c'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est que tu as la grande famille du web, tu as la culture internet, et puis au milieu, eh bien, tu as des communautés avec chacun leur même. Par exemple, on vous mettra quelques liens. Hein. Tu as des mèmes pour les graphistes et les DA qui en général, moi, me font pisser de rire. Tu as même des mèmes pour les ingénieurs, ultra spécifiques pour les ingénieurs. Donc voilà, chaque communauté son propre mème.
Donc Zara a renvoyé ses conteneurs de t-shirts chez les skinheads, quoi.
À mon avis, ils les ont bénés surtout. Hein, je pense qu'ils les ont brûlés. À mon avis, c'est ça qui s'est passé.
Je suis tombé aussi sur une liste de temples du mème. Alors, il y en avait qu'on connaissait déjà. Hein. Il y a des endroits où le mème est... c'est les dictionnaires de mèmes du web, on va dire. Je vais vous en citer deux, trois qui vous parleront forcément. 9gag, qui est un des plus connus, je crois. En tout cas, en France, il est super développé. Même base, Know Your Meme ou encore Trollino. Ces sites, on voit des vraies communautés dessus qui créent en temps réel des gags, des mèmes du coup. Et hier, je me suis bloqué dessus. En fait, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a des mecs qui créent ça en temps réel. Donc, t'as les heures. Hein. C'était en train de se faire. Et du coup, tu te rappelles, hier, il y a le premier trou noir de l'histoire qui a été montré en vidéo. Et ben, il y avait des tonnes de mèmes sur ce trou noir qui étaient comparés à l'œil de Sauron ou à plein d'autres choses dont je ne parlerai pas. Mais ça sortait en direct et j'étais scotché. Mais en fait, il y a une vraie vie derrière le mème. C'est même une communauté qui est hyper active.
Oui, il y a des bibliothèques de mèmes et puis il y a des mèmes surtout qui sont connus mondialement. Hein. Pour en citer quelques-unes, je parlais tout à l'heure du Success Kid. Tu sais, cette photo avec le gamin qui a le poing levé comme ça. Yeah. Celui-ci, on l'a décliné. Il a été vu des milliers et des millions de fois, décliné de plein de versions différentes. Les gens sont vraiment appropriés cette image où il y a une vraie personne derrière hein, qui l'a plutôt bien pris parce qu'il y a de ça quelques temps, elle a mis à profit cette notoriété malgré elle, ce petit gars, pour faire un crowdfunding pour sa maman qui était malade. Donc aujourd'hui, il est adulte, hein, ce gamin, mais en tout cas, il a une petite trentaine. Donc voilà, il y a des histoires assez marrantes comme ça. Bon, on peut parler aussi de Chuck Norris, le Mister Mème.
Il y en a eu des centaines.
Des centaines de millions, je pense. Chuck Norris fait pleurer les oignons. Chuck Norris peut diviser par zéro.
Ce qui est marrant, c'est que c'est souvent la même image, comme tu le disais avec ce garçon-là. C'est souvent la même image qui est reprise en mème. Une fois qu'il sort, une fois... Et ben en fait les autres se disent mais putain ouais il y a un truc à dire, autre chose à dire, mais garde la même image, c'est ça qui est génial.
Ouais, et tout
en fait.
Le jeu du mème, évidemment, quand on crée du mème, c'est d'arriver à détourner, de garder le même contenu et puis de détourner le texte, trouver un autre texte. C'est un art hein, quand même, l'art du mème.
Ouais, en 2018 là, je me suis amusé à regarder les mèmes qui avaient bien marché. T'as Theresa May qui danse sur du ABBA en rentrant à une conférence. Du coup t'as plein de choses qui ont été reprises. Alors juste trois passages de cette danse et des moi qui revient après avoir vomi en soirée. Plein de choses comme ça sur la photo de Theresa May, forcément. T'as un Pikachu la bouche ouverte aussi qui a été repris des millions de fois cette année. Et une des grosses stars du mème cette année a été Matuidi aussi. Parce qu'il faisait toujours des grimaces de fou quand il tombait sur le terrain. Et du coup, ben, t'avais toujours un mème qui sortait quoi, après ça.
Et une grosse star internationale montante hein, du mème, et ben, c'est Jawal.
Ah oui,
le fameux Jawal hein, qui a fait, ben vous savez, on vous refait pas le topo sur
le logeur de Daesh,
hein, Jawal, mais qui explose aux États-Unis, qui maintenant ce mème là est en train de devenir complètement viral à l'international, la fameuse une espèce de gif animé où on voit Jawal rentrer au tribunal et regarder tout le monde comme ça, scruter tout le monde avec défiance, et ça c'est en train de se transformer en mème aussi. C'est voilà, c'est rigolo, il y a les mèmes vraiment qui explosent parce que le mème il porte en lui la viralité. C'est même le principe même d'un mème, c'est qu'il doit être viral hein, pour fonctionner.
Et l'un des principes aussi du mème, c'est quelque part de prendre une image qui est publique. Et c'est un peu cette défiance par rapport au droit d'image ou pas, parce qu'on a très souvent des célébrités qui pourraient attaquer la première personne qui a fait ce mème. Là, Jawad, bon, lui, il est un peu perdu, le pauvre, mais il y en a plein. Theresa May pourrait interdire ces choses-là. Enfin, c'est toujours une défiance, hein. C'est ce web de défiant et de geek 2.0 qui a. C'est un jeu en fait.
Ouais, bah, là-dessus, moi, je suis tombé sur une interview de l'avocat de Chuck Norris qui parle spécial. Ouais, bah oui, l'avocat de Walker Texas Ranger, un avocat.
Le vrai.
En fait, il est plutôt cool sur le sujet. Hein. Il dit, donc il s'appelle Michael Forchet et il dit en fait, qu'il n'y a rien de vraiment illégal. Mais attention, les amis, quand même, la marque Chuck Norris, elle est déposée, donc n'imaginez pas faire des mugs, des t-shirts, etc. Mmh. Là, vous pourriez vous prendre un procès, ou en tout cas une interdiction. Et lui, il dit, vis-à-vis de Chuck Norris, hein, de Monsieur Walker Texas Challenger, il dit, c'est un gars formidable et qu'en fait, il est vraiment flatté par la jeune génération qui le découvre grâce au mème. Et c'est vrai que pour un gars comme Chuck Norris, nous on a été quand même bercé un peu avec Chuck Norris et ses coups de pied rotatifs, mais ouais, la jeune génération, elle connaît ce mec que par les mèmes. Et peut-être que c'est une porte pour un acteur comme ça vers une reconnaissance sur un jeune
Mais lui, c'est la reconnaissance éternelle. Hein. Chuck Norris, il est dans le temple du mème, maintenant c'est fini, c'est bon quoi. Enfin...
moi je suis tombé aussi sur un article très intéressant qui se posait la question de savoir si la culture mème, eh bien, c'était le folklore de demain. En fait, il se trouve que le American Folklife Center, c'est un centre dédié au folklore américain qui est situé dans la bibliothèque du Congrès américain, donc c'est pas non plus un truc trop planqué, eh ben, contient aujourd'hui une large gamme de contenus. Il y a des contenus ethnographiques très sérieux, il y a des histoires orales racontées, des chansons aussi, et puis depuis quelques temps, eh bien, il y a des mèmes, il y a une bibliothèque de mèmes, en fait depuis 1970, donc ce centre dédié au folklore américain rassemble un certain nombre de contenus folkloriques et a intégré, eh bien, des éléments, des archives de Know Your Meme. T'en as parlé tout à l'heure, Know Your Meme. Allez voir ce site parce que c'est une énorme bibliothèque ultra riche hein, de contenu meme. Ils en ont intégré un certain nombre et globalement, il semblerait qu'il y ait un mouvement croissant dans le monde vraiment très académique de l'art folklorique qui considère la culture meme comme ben, du folklore et l'étudie en tant que telle. Et du coup, dans cet article, il y avait une interview de Whitney Phillips qui est un chercheur en folklore américain. Et qui
chercheur en folklore.
Ouais, ça existe et qui explique. Ouais, mais attends, le folklore, c'est les caricatures, c'est l'art oral, c'est les chants traditionnels, etc. Il y a quand même beaucoup
de
choses.
Moi, je vois des danseuses alsaciennes hein, quand tu me dis ça, ou du French cancan, mais ok.
Eh bien, Whitney Phillips, il dit l'expression folklorique, elle est en dehors. Où se manifeste dans un certain degré de conflit avec la culture formelle. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire il y a une défiance vis-à-vis de la culture traditionnelle, et c'est tout à fait ça, la culture du mème. Et c'est vrai qu'on peut imaginer que dans peut-être 50 ans, 100 ans, eh bien, les gens étudieront les mèmes qu'on fait aujourd'hui en disant « Ah, c'était ça à l'époque ».
Et ce qui est très drôle, hein, toujours sur ce lien de défiance, c'est qu'il y a de la défiance dans le mème aussi. Le mème, quand tu as des mèmes en français, même assez célèbres qui sortent, bien souvent, tu as les puristes du mème, ceux qui viennent gueuler, qui viennent dire oh, c'est pas un mème, ou alors qui le boycottent.
Déjà, c'est pas du impact, c'est fait avec de l'Arial Bold, ça marchera pas.
Exactement, on a bien vu la supercherie. C'est quoi ce comics en MS ? Non, parce que pour eux, le mème doit être en anglais déjà, et reprendre vraiment leur code à eux, hein, les codes qu'on a dit, jeux vidéo, films, etc., qui sont des codes très précis pour eux, et donc les puristes le veulent en anglais, c'est la seule langue légitime du...
C'est la langue officielle du mème.
De l'univers.
Alors là,
du mème.
Je demande à voir, mais c'est vrai que c'est la langue majeure hein, sur le mème. Et c'est vrai que pour les marques, hein, notamment les marketeurs, les marques, on a envie de se saisir à l'heure où le viral est clairement compliqué à aller chercher. Bah là, on a un élément de contenu qui est intrinsèquement ultra viral et qui cartonne. Et donc, c'est tentant pour les marques de s'approprier cette culture du mème, mais c'est un exercice ultra périlleux. Bien souvent, ça ne marche pas, soyons clair. Pourquoi ? Bah parce que le code du mème, comme on l'a dit, c'est une défiance, c'est un code graphique qui est volontairement cradoc et pour une marque, ça peut être compliqué à appréhender. Et puis surtout, ça doit être spontané, ça doit générer, ça doit être déviant un petit peu le mème.
Alors, exactement dans cette veine-là, il peut peut-être être adapté seulement sur certaines plateformes qui sont plus éphémères. Je pense à Twitter, normalement, par exemple, qui est vraiment l'endroit où on peut poster un mème sans que ça soit vraiment trop vu. Et au final, on peut quand même tenter un coup là-dessus.
Ouais, ouais. Et moi, t'as raison. Et je suis tombé sur un cas d'école hein, que j'avais même oublié que c'était une marque qui était derrière ça. C'est le cas d'école de Dos Esquis. Dos Esquis, c'est une marque de bière. Et eux, ils ont proposé à leur communauté en ligne, eh ben, de personnaliser un mème en utilisant la légende I don't always drink beer, but when I do, trois petits points, et les gens complétaient. C'est devenu un succès planétaire, ça a fait une énorme viralité, et ça a même abouti à l'un des mèmes les plus populaires, le fameux Most Interesting Man in the World. Je suis sûr que tu as déjà vu ce visuel, où tu as un mec bien. Avec une bière, qui a l'air d'un, on dirait un baron installé dans un beau fauteuil. On vous mettra un lien vers Google Search, où vous pourrez voir des centaines de photos du Most Interesting Man in the World. Et ça, initialement, eh bien, c'est une campagne qui a été faite par une marque qui a cartonné, et forcément bah après ça l'a dépassé totalement, et cet acteur qui avait été embauché par la marque pour faire cette photo se retrouve aujourd'hui sur des milliers de contenus qui n'appartiennent ni à la marque ni à lui.
Bon, il a une belle gueule d'Anthony Hopkins là, un bel acteur américain.
Ouais, et là ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'en fait il a été plutôt malin, l'acteur en question, c'est qu'il a réitéré quasiment avec la même pose pour une marque de tequila en se disant bon après tout je suis un même je vais me revendre pour une marque de tequila exactement pareil.
Autant être un même qu'une personne pas célèbre après tout il a saisi
le. Je sais pas moi je me souhaite pas d'être un même. Hein, voilà les amis ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur la culture même sujet passionnant hein. Je pense que ça mériterait un jour d'écrire vraiment une thèse peut-être qu'il y en a d'ailleurs tiens si on a raté du contenu si vous connaissez vous aussi des très bons articles ou même des bouquins hein, qui parlent de culture même n'hésitez pas à venir nous en parler sur les plateformes sociales.
Sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Et n'oubliez pas, le même, ça s'écrit avec un accent grave. Hein. C'est pas un accent circonflexe.
Ah oui, oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit ça.
Exactement, je viens d'y repenser là. Donc ouais, c'est très juste. M, accent grave, E, M, E. Voilà,
voilà ne faites pas d'erreur là-dessus. donc on se retrouve sur @supernatif sur les réseaux sociaux. Et puis évidemment, on vous invite à vous abonner au podcast Le Super Délice, c'est tous les matins.
Et voilà. À nous mettre un petit commentaire au passage si vous le souhaitez.
Oui, ça nous ferait très plaisir. Une petite note, s'il vous plaît, les amis. Et on est sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, à peu près partout. On vous souhaite une très très belle journée.
Salut à tous.
Et on vous donne rendez-vous demain. Salut.
Ciao.